et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, à l'occasion du grand week-end pascal, nous vous offrons une émission un peu spéciale. Un grand voyage à travers le monde avec 4 reportages. Nous irons à Essaouira au Maroc avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et le maître Gnawa Hassan Boussou. Et je vous annoncerai pour l'occasion en avant-première une nouvelle qui concerne la librairie francophone. Nous ferons une balade à Bruxelles dans le quartier de Molenbeek avec l'écrivain Foy de la Rouy qui évoque dans l'insoumise de la Porte de Flandre la liberté et le fondamentalisme. Dans un court instant, nous irons au cœur de la nature québécoise, au milieu des bêtes, dans un zoo écolo avec l'écrivaine Lys Tremblay, entretien en déambulation autour des relations entre les hommes et les animaux. Retour en Haïti également dans un lieu de Port-au-Prince avec Yannick Lahens, accueillie ce printemps au Collège de France. Nous parlerons avec elle de la condition sociale et politique d'Haïti. Les libraires seront avec nous pour leurs incontournables coups de cœur et coups de gueule. Et on commence donc tout de suite ce grand voyage francophone avec une escale au Canada.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Lys Tremblay.
Bonjour monsieur.
Vous pouvez m'appeler Emmanuel.
Je vais le faire, sans problème.
Oh, quand même, on se connaît maintenant, par les ondes.
Oui, ben, par les ondes, je vous écoute de temps en temps, pas tous les, mais souvent quand même.
Ah ben j'espère,
et
oui.
Puis j'ai appris des choses et j'ai lu des livres grâce à votre émission.
Très
beaucoup
bien.
Beaucoup de livres.
Alors nous sommes ici au cœur du Québec, à 30 minutes de Montréal, 30-40 minutes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans cet espace immense dédié à la nature. L'écomuséum, il y a ici 115 espèces d'animaux vivants, indigènes de la vallée du Saint-Laurent. Alors on y parle d'éducation, de recherche, c'est vraiment ça le centre des préoccupations de ce parc zoologique, qui est ouvert, figurez-vous, Lys, 364 jours par an. Il ne ferme que le jour de Noël.
Ah bon, ça je ne savais pas. C'est la première fois que je viens. Moi, je vis dans la nature, mais près de chez moi, il y a...
Il y a des enfants qui courent.
Oui, il y a des enfants qui courent. Mais près de chez moi, il y a un endroit où on ramasse, où on soigne les oiseaux de proie qui sont malades. C'est un peu le même style d'idée, mais là-bas, c'est juste des oiseaux.
Alors, on va aller voir les loups, on va aller voir... Les grizzlies aussi.
Oui, mais les... il n'y a pas de grizzlies au Québec.
Non, ce n'est pas des grizzlies, ce sont des ours.
Il y a des ours bruns puis il y a des ours noirs. Il n'y a pas de grizzlies. Les grizzlies sont dangereux. Les ours bruns et les ours noirs ne sont pas très dangereux. Au printemps, il faut faire attention. Mais, et aussi, si on rencontre une mère avec les petits, et j'ai un de mes amis à la campagne qui dit « Faut pas que tu rencontres une femelle. » Mais j'ai dit « Comment tu fais pour pas la rencontrer? » Lui, c'était comme « Tout va bien, mais faut pas que tu rencontres une femelle, mais il y a pas d'indice. » Et si la femelle vient de mettre bas, elle est très, très, très agressive pour protéger ses petits. Mais sinon, c'est pas dangereux du tout.
Alors, vous avez publié « L'habitude des bêtes » aux éditions Boréal. C'est un roman où les humains et les animaux se côtoient de très près. Vous croyez-vous en la symbiose entre l'homme et l'animal?
Je ne sais pas si c'est une symbiose, mais moi, je sais que je vis sur leur territoire à eux. Moi, je ne suis pas chez moi où je vis. C'est-à-dire que je vis au pied d'une montagne et c'est très sauvage. C'est moi qui dérange. C'est comme ça que je vois ça. Est-ce qu'on est en symbiose? En tout cas, on vit proche, puis je vis près d'un parc national, puis les animaux sont très protégés dans le parc. Les animaux sont pas capables de lire la pancarte ici, le parc arrête. Ça fait qu'ils viennent chez moi, parce qu'ils lisent pas la pancarte, que là, ils ont pas le droit, non. Ils viennent. Donc, je vois des orignaux, je vois des ours, je vois... plein les petits animaux qui sont de la forêt boréale. Là.
Voilà, il y a des panneaux qui nous indiquent. Donc là, les oies. Tiens, il y a des oies d'ailleurs dans votre roman. Et puis les loups, voilà, c'est par là, les loups. Il y a beaucoup question des loups dans votre roman, Lys Tremblay. Ah, les loutres.
J'adore ça, c'est mon animal préféré.
C'est vrai, pourquoi?
Parce que ça flotte.
Ça flotte pas,
puis ça
nage.
Ça a pas beaucoup de poids. C'est très joueur, des loutres.
Ouais, hein? C'est vrai.
Très, très joueur. J'aime beaucoup ça. Les loutres, c'est des manteaux incroyables. La fourrure des loutres, ça fait des super beaux manteaux. Mais oui, c'est
vrai. Il ne faut pas dire ça, Lise.
Non, non, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Et c'est des manteaux qui sont assez légers et qui résistent à l'eau.
Bon, vous vous arrangerez avec les associations de qui luttent pour la condition animale. En tout cas, un animal, Lise Tremblay, ça peut changer la vie d'un homme. C'est le cas de votre personnage, Benoît, qui confie que dans sa vie, il n'a pas su être un homme bon. Sauf qu'un jour, il s'est passé quelque chose pour lui.
Oui, ben, c'est un dentiste qui va arracher des dents dans le Nord parce que c'est plus payant. C'était pas quelqu'un de très, très gentil. Et un moment donné, l'avion est très en retard parce qu'il y a une grosse tempête. Et là, ils viennent le rechercher plus tard pour prendre l'avion. Et il y a quelqu'un, le monsieur qui les amène à l'avion, lui donne un petit chiot dans les mains. Et il garde le chien, et le chien va le changer. Et là, on est devant des vrais loups.
Alors, c'est incroyable, parce qu'au même temps que vous parlez, il y a un loup, mais énorme.
Ouais, il est gros, lui.
Qui est très, très captivé par ce qu'on est en train de faire.
Oui, alors, ils connaissent leurs amis.
Ouais, sauf qu'il va essayer de passer, non?
Non, là. Non, mais... C'est très rare, puis ils sont habitués ici, puis c'est sous tension, hein, hier, c'est
marqué. Oui, il y a des câbles électriques.
Il n'y a pas de danger. De toute façon, il n'a pas l'air méchant. Il est très beau, hein?
Il est magnifique. Incroyable.
Il est en train de nuire.
Blanc cendré, oui. Très étrange. On entre dans une cabane, là. Une sorte de cabane au Canada, Lise Tremblay.
Une cabane à l'abri pour regarder les loups.
Pour regarder les loups qui sont juste face à nous avec une grande baie vitrée. Là, on est un peu plus protégés. Là, pour le coup, ils ne peuvent pas arriver. Et les loups... les loups, c'est vrai qu'il se passe des choses quand même dans votre roman autour des loups, Lise Tremblay, parce que dans ce village où se situe votre histoire, les loups sont de retour. Et ils perturbent l'ouverture de la saison de la chasse.
Mais je pense qu'ils n'ont jamais été partis vraiment. Mais c'est vrai, et ça, c'est vrai, là. On est dans une période au Québec où il y a beaucoup de loups.
Alors, il y a eu un scandale, d'ailleurs, au Canada, à propos, justement, de la fourrure de coyote. Et vous dénoncez, vous, dans votre livre, la capture des loups au collet. Et c'est vrai qu'on capture ces coyotes au collet pour faire des fourrures sur les parkas. Et du coup, la condition animale, évidemment, est bafouée.
Mais ça, tout à l'heure, j'ai parlé du manteau de loup. Je suis pas contre le fait qu'on utilise l'animal, mais il faut le faire honnêtement. Et les collets, c'est méchant, c'est souffrant. L'animal ne meurt pas tout de suite, et souvent, il meurt de faim. Et ça, je trouve ça épouvantable.
Oui, il est épuisé, et puis il est pris au piège. Oui.
Voilà, ça, c'est épouvantable. Et ça, je suis contre ce genre de choses-là. La chasse, à la limite, la chasse à l'orignal, ça se fait avec un fusil, et l'animal meurt. Mais faire souffrir une bête, c'est épouvantable. Mais quand la chasse est faite de façon honnête, j'ai aucun problème avec ça.
Il y a notre ami le loup qui revient, regardez.
Non, mais c'est vraiment joli, puis un beau soleil, c'est très, très beau. Un peu froid, mais bon.
Un petit peu froid. Il est très beau, ce coyote. Hein? Court sur pattes, mais...
Un peu gras.
Un peu gras, oui. Jolie fourrure. Hein?
Oui.
Dans votre roman, hein, Lise Tremblay, tous vos personnages sont dans une transformation physique ou intérieure. Il y a la fille de Benoît qui souffre d'un trouble de l'identité de genre, une vieille femme qui veut contrôler sa fin de vie, le chien d'Anne qui passe de l'autre côté puisqu'il est malade et qu'il va mourir, il est vieux. C'est un livre sur le temps qui passe?
Ben, je pense que oui. Je pense que c'est un livre qui est... j'ai eu 60 ans. C'est le temps qui passe, oui. Puis le temps qui reste, surtout, je pense... Quand on vieillit, c'est qui est... C'est pas tellement le passé comme le temps qui reste et ce qu'on veut en faire. C'est peut-être très cliché, mais c'est vrai qu'on se sent comme ça. Et ce livre-là, c'est une réflexion là-dessus aussi. Moi, je pense que je suis une meilleure personne que quand j'étais jeune. Je pense que je suis devenue bonne avec le temps.
C'est vrai?
Oui. Mais avant, j'étais peut-être pas si gentille que maintenant.
Bon, nous allons écouter à présent deux de nos libraires qui ont lu votre roman, Lise Tremblay. Claire Renaud est en Suisse. Claire, quel est votre avis?
Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était un très beau livre. C'est une ode à la nature et à l'amour des bêtes. Et j'avais envie de me retrouver avec Benoît dans sa maison à contempler le lac avec une bonne bouteille. Hein. J'ai aimé la mélancolie de cet homme vieillissant qui se sent meilleur avec l'âge. Et puis cette solidarité qu'il y a aussi entre vos personnages principaux, j'ai trouvé ça très beau. Et notre fin de vie est en grand questionnement. J'ai trouvé que vous avez su le faire avec beaucoup de tendresse.
Bien, on va partir du côté de la Belgique, depuis le Canada. Le Québec cap sur Déborah Damblon dans sa librairie. Vous êtes d'accord, Déborah?
Ben oui, moi si je devais définir ce roman d'une seule formule, je dirais qu'il fait du quotidien de l'universel. Et c'est à la fois très très doux et puis très profond aussi. Et puis, je trouve en plus que pour les Européens que nous sommes, le recul géographique et la description d'un paysage qui nous est peu familier, eh bien, il adoucit encore l'impression de l'ensemble. Et ça le rend encore plus délicieux.
Lise Tremblay dans la librairie francophone pour cette émission ici à l'Écomuséum, un parc zoologique à 30-40 minutes de Montréal, dans un parc immense, un très bel endroit avec un pont de bois.
Regarde l'aigle.
Ah oui, oh là là, juste à côté. Ouais.
C'est magnifique. Hein? Ah ça c'est bien, là. C'est beau, beau, beau. Et ça c'est assez rare quand même.
Avec la tête blanche et le corps noir.
Ouais, c'est brun foncé.
Brun foncé, ouais.
Et un beau bec orange. Non, c'est magnifique. Ouais, ouais, puis il est très gros.
Très gros. Il est juste sur le rocher qui est à côté de nous, parce qu'on passe sur un pont de bois qui sillonne comme ça, pont de bois qui sillonne et qui fait un parcours dans ce parc zoologique. Et l'aigle qui est là, regardez Lise.
Ah non, il est même très gros, magnifique, vraiment très beau. Et puis il n'est pas content. On l'a dérangé.
Le cycle normal de la nature fait que la population animale se régule d'elle-même. Ça aussi, vous en parlez, Lise Tremblay, dans votre roman. En tout cas, vos personnages racontent cela. C'est très important, finalement, de se retrouver avec des animaux qui arrivent à s'autoréguler parce que, du coup, ça empêche les hommes de faire des bêtises.
Oui.
Enfin, ça devrait, en tout cas.
Oui, puis en même temps, c'est une réflexion sur la vie aussi, sur l'acceptation de la mort. J'ai un ami qui vit avec quelqu'un très malade et qui m'a dit un jour, me préparer à sa mort, c'est me préparer à la mienne. Et puis ça m'avait assez choquée. Et c'est une phrase qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce roman-là, bizarrement. C'est comme, c'est normal de mourir quand on est vieux et c'est normal d'essayer de se préparer parce que c'est inévitable. C'est pas le fun de mourir, mais vu que c'est inévitable, c'est vrai que je pense que c'est mieux de se préparer. Essayez de se préparer le mieux qu'on peut.
Ça vous fait peur, vous, ou pas? Alors qu'on rentre dans l'écomusée.
Mais la mort, être mort, ça me fait pas peur parce que tu sais pas que t'es mort. Arrêter de vivre, c'est un peu plate, là. Mais moi, ce qui va être terrible, c'est quelque chose de très clair. Puis c'est extrêmement égoïste. C'est pas tellement les gens. C'est plus voir la nature. Et c'est terrible de dire ça.
C'est ça qui vous fait peur, vous?
C'est ça que je trouve épouvantable. C'est de plus voir les fleurs, de plus voir la nature, de plus être en contact avec la nature, plus que de quitter les gens.
Ouais. Alors c'est drôle qu'on termine là-dessus, Lise Tremblay, parce que ce roman, j'allais le dire, c'est un roman sur la mort, c'est un roman sur le temps qui passe, on en parlait, mais c'est un roman sur la mort qui n'est pas négatif, qui finalement ne nous angoisse pas. Mais tout au long du livre, on ressent la mort et la disparition.
Oui, c'est sûr, j'ai perdu mes parents il y a 2-3 ans, mais je ne crois pas...
C'est lié à ça, alors?
Probablement, mais je ne crois pas que ça soit angoissant. Je pense que c'est un roman sur la vie aussi. Ouais. Je pense ça, et je pense que c'est un roman très doux. En tout cas, j'ai essayé de le faire doux. Doux, doux, doux.
Un roman doux et entouré d'animaux. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici, au parc zoologique, à l'Écomuséum du Québec. Merci, Lise Tremblay.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Mais moi aussi, j'étais ravi de trouver cet endroit avec vous, de le découvrir avec vous. Et votre roman, L'habitude des bêtes, est paru aux éditions Boréal.
Merci.
À bientôt, Lise. Et à suivre, Yannick Lins du Collège de France depuis un lieu de Port-au-Prince et une déambulation dans le quartier populaire et tristement célèbre de Molenbeek. Ce sera avec Foi de la Rouille. Mais tout de suite, on écoute le tout nouveau titre d'Arthur H. dans la librairie francophone.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quelles sont ces seins qui poussent? Il est un très belle femme par cette petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin. Le yin est dans le yang. Le yin est dans le yin. Le yin est dans le yin. Le yin. quels sont ces poils qui poussent. Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que us. La yin est dans la yang, le yang est dans le yin. La yang est dans la yin, le yin est dans le yang. La yin est dans la yang, le yang est dans le yin. La yang est dans la yin, le yin est dans le yang. Oh, oh, mes femmes au milieu, sois toi-même. Être unique est précieux.
Sur H avec Il, Elle, sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Yannick Lahens a été choisi par le Collège de France pour occuper cette année la chaire des mondes francophones. Elle vient de publier un recueil de nouvelles chez Sabine Weisspieser qui rassemble 20 ans d'écrits, mais aussi de réflexions sur Haïti. Nous l'avons rencontré au Quartier Latin, un lieu festif de Port-au-Prince. Et bonjour Yannick Lahens.
Bonjour.
Alors c'est vrai que Yannick Lahens, quand on est ici, en Haïti, on ressent une grande force, un courage, une résistance et une envie de vivre, quelles que soient les conditions. Et on voit des conditions déplorables. On est passé, depuis qu'on est là, dans des quartiers très difficiles, notamment le soir. Dès que c'est le soir, il y a des gangs qui vous arrêtent en voiture. On s'est fait arrêter, nous, hier soir. Il a fallu qu'on donne quelque chose pour passer, donc c'est pas simple. Et en même temps, il y a une grande fragilité aussi. Fragilité que l'on ressent à travers le paysage, la nature. On sait que ça peut basculer.
Et je pense que ça, c'est énorme, comme, je sais pas, moi, comme poids à porter. Et en même temps, quand vous parlez de... j'aime pas employer le mot résilience, parce que ça fait comme on accepte le malheur tout le temps, tout le temps. Non, mais c'est quand même faire face. Toujours. Quelles que soient les conditions. Et dans mon texte Faille, après, écrit après le tremblement de terre, je disais que c'est comme si l'espoir n'était pas la seule réponse.
Ouais.
Donc on fait autre chose. Même si on ne voit pas le bout, on continue à se battre. Tous les jours.
Mais dans Faille, vous parliez, Yannick Lahens, justement, de cette capacité à être digne. Et vous dites que Port-au-Prince était une ville digne avant le tremblement de terre.
Mais écoutez, il suffit de voir les gens dans des situations matérielles difficiles emmener leur enfant à l'école le matin. Parce que les chaussettes doivent être impeccables, les cheveux bien, les petites tresses bien faites, les nœuds dans les cheveux, tout ça. Parce qu'il faut donner cette image qu'on est toujours debout. Donc ça, c'est... Rien que ça, ça vous donne une idée de la manière dont les gens vivent des conditions difficiles.
Un monde assez bizarre. Comme un pays qu'on ne connaît pas, on dit ça pour les peu partout, pour l'argent, le pouvoir et les biens. C'est la voix des Haïtiens qui prédonne cette chanson à tous les frères du monde, dont le cœur bat au rythme et du désespoir.
Voilà, vous entendez le son de Port-au-Prince en ce moment même, ici avec Yannick Lahens dans la librairie francophone. Et cette ville très bruyante, hein, on le dit tout le temps quand on est ici. On va parler de votre nouveau livre pour terminer, Yannick, qui sort en ce mois de mars, L'oiseau Parker dans la nuit et autres nouvelles. Vous racontez la vie quotidienne d'Haïti. Alors ce sont des textes qui ont été publiés ici, mais qui sont inédits pour la France, le Canada, la Belgique ou encore la Suisse. Vous évoquez plein de sujets, le courage des femmes, les croyances, les violences urbaines, vous en parliez, mais aussi les violences rurales.
Oui, mais la violence fait partie de, non seulement de l'histoire, mais certainement dans chacun de nous. Et vivre en société, c'est apprendre à, comment je pourrais gérer cette violence, là, voilà. Je voudrais pas qu'on focalise sur l'idée que Haïti serait l'endroit le plus violent au monde, parce que c'est le stéréotype qu'on aime mettre. Et dans un pays où il y a tant de misère, tant de disparités aussi, et si peu de présence policière, je pense que les Haïtiens sont d'une patience et d'une civilisation hors norme.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de police. Ouais.
Mais non. Et vous allez dans des endroits où il n'y a pas de policiers du tout, où les gens ne se tapent pas dessus, les gens, voilà.
Il y a des gardiens armés par contre, avec des fusils à pompe partout.
Dans les quartiers, ouais. Devant les commerces, ouais. Exactement, etc. Mais vous allez dans des, je sais pas moi, en milieu rural, dans des endroits où il n'y a pas de policiers du tout, les gens vivent, parce qu'il y a une sorte d'autorégulation, etc. Donc, il ne faut pas justement focaliser sur cette idée de la violence, parce que je regarde par exemple ce qui se passe en France, où les gens ont quand même accès, leur vie est difficile, mais ils ont quand même accès à la santé, leurs enfants peuvent aller à l'école. Et ça donne quand même une violence parce que les gens voient que, leur vie devient de plus en plus difficile. Imaginez un pays comme Haïti où il n'y a pas ça. Vous tombez malade, c'est la ruine de la famille. Et vous n'avez même pas accès à des soins.
Ouais, en plus.
C'est compliqué. Et je pense que les gens ne sont pas violents. Quand on pense à la violence qu'ils subissent tous les jours, voilà. Et je mets aussi en scène la joie et la douceur qu'ils peuvent avoir à côté. Quand on prend d'autres nouvelles... Je sais pas, moi, les gens célèbrent simplement l'amour. Parce que les gens tombent amoureux, quand même, en Haïti. On a l'impression que, quand j'ai écrit Guillaume et Nathalie, les gens étaient... Ah, je dis, écoutez, les gens, quand même, ça arrive.
Oui.
Heureusement. Donc, on a l'impression que les gens imaginent, je sais pas, soit une jeune... Je sais pas,
Il y a beaucoup de sensualité en Haïti.
Absolument. Il y a aussi ça en Haïti. On peut avoir aussi au Centre d'art des expositions de peintres magnifiques. Ça aussi, c'est Haïti. Voilà.
Quand vous avez compilé ces textes, publiés chez Sabine Vespizer, pour le coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ça remonte, finalement, au fil des années. Il y en a plein, voilà, c'est toute votre carrière,
voilà,
finalement.
Sabine me disait, mais oulala, c'est là où tu as puisé tout pour pouvoir écrire les romans.
Mais alors, vous voyez comment l'avenir d'Haïti, en ayant écrit tout ça, comment vous voyez ce pays et son avenir?
C'est un grand paradoxe, Haïti. Il y a toujours... ces choses miraculeuses, je peux te dire. Et en même temps, cette chape de plomb, cette chose qui nous plombe, qui nous... Et là, je ne peux pas dire. Non, difficile de dire. Je reviens à géopolitique, on est quand même l'arrière-cour des États-Unis. Il ne faut pas oublier que plus un pays a des institutions qui ne marchent pas, plus des forces mafieuses... parasite les institutions, donc pas de justice, pas de... Compliqué.
Compliqué.
Oui, je dirais compliqué.
Vous avez peur ou pas?
Il m'arrive d'avoir peur, mais il m'arrive aussi d'avoir de la force face à cette peur. Oui.
Papa, mon Dieu, qui dans le ciel, la misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie.
Vous iriez en politique encore, comme vous l'avez été auprès du ministre de la Culture dans les années 90?
C'était possible dans les années 95. Et je pense que le peu qui reste comme élément de politique culturelle, c'est Raoul et moi, et d'autres gens du cabinet. Louis-Philippe d'Alembert était aussi avec moi. On l'a mis en place. Le réseau des claques, on voulait faire du... Par exemple, qu'il y ait, à partir de monuments, parce qu'à Haïti, on ne le sait pas aussi, un patrimoine bâti et assez exceptionnel de forts. On voulait que ça soit des antennes du ministère de la Culture. On voulait qu'il y ait justement tout un curriculum dans les écoles parce que c'est un pays qui a tellement de talent. Bon, tout ça, c'est un peu... Depuis, c'est pas évident.
Non. Ça répond pas à ma question, Yannick. Vous iriez en politique ou pas?
Ah non, non, non.
Non.
Là, là, non. Tout ça, c'était pour vous dire que non.
Même si on vient vous chercher?
Non.
Non? Même si on vous supplie?
C'est un milieu très dur.
Oui. Et puis, c'est plus possible.
Non, non, non.
C'est trop dangereux pour vous?
Oui, et puis est-ce qu'on a vraiment des marges de manœuvre? Je ne sais pas, moi. Je pense que c'est aller en politique maintenant, c'est perdre un peu de son honneur, de son... Je sais pas. Il y a des gens qui pourraient le faire en Haïti, mais la plupart des gens prennent une certaine distance par rapport à la politique. Ça devient dangereux, justement, à cause des forces obscures et mafieuses qui sont autour. Voilà.
L'acte politique, c'est finalement de rester ici.
Ah, c'est déjà énorme.
Bah oui.
Oui, oui, parce que j'aurais pu, après mes études en France, aller ailleurs, j'aurais pu. Mais en même temps, je pouvais rentrer en Haïti, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer en Haïti. Lionel Trouillot pouvait rentrer en Haïti, Gary Victor était en Haïti. Donc, il faut aussi mettre l'accent sur ça. Je pouvais rentrer en Haïti. Non, je n'ai jamais envisagé d'aller ailleurs. Jamais.
Merci beaucoup, Yannick Lahens, alors qu'il y a un tap-tap qui entre dans cet endroit, le quartier latin. Et votre livre, donc, est paru chez Sabine Vespizer, L'oiseau par cœur dans la nuit et autres nouvelles. Merci beaucoup pour cet échange ici à Port-au-Prince. Merci, Yannick. On quitte Haïti pour la Belgique. Nous sommes allés dans le quartier de Molenbeek avec l'écrivain Fouad Laroui pour un entretien en déambulation autour de son roman qui évoque les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, mais qui donne aussi un autre regard sur ce quartier de la ville, vivant et très cosmopolite.
Nous sommes en train de longer le canal qui s'appelle tout simplement le canal de Bruxelles, mais qui a cette particularité de couper la ville en une partie centrale, Bruxelles-Centre, plutôt blanche, et le quartier de Molenbeek, tristement célèbre, j'allais dire, où il y a une forte population d'origine immigrée, en particulier d'origine marocaine.
Bonjour Fouad Laroui.
Bonjour.
Voilà, donc dans ce quartier Molenbeek, vous êtes attiré tout de suite par une enseigne. Qu'est-ce que c'est ça, le chien du chien?
Le chien du chien. En fait, c'est très curieux parce que vous savez que le surréalisme est né finalement ici, en Belgique. Oui. Et c'est pratiquement un art de vivre. C'est très naturel ici d'avoir des drôles de noms.
Avec une devanture verte, un peu sale et un chien jaune. C'est très bizarre. C'est
surtout
vrai que
qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait, le chien du chien. c'est Bruxelles, le chien du chien.
Avec des immeubles très récents, alors au bord du canal évidemment, puisque la ville là est finalement coupée en deux, hein, on peut dire, puisqu'on a l'autre versant de Bruxelles. Vous en parlez dans votre livre « L'insoumise de la porte de Flandre ». On va refaire le parcours de vos personnages. C'est un livre très dur sur le fond, mais qui met en lumière, qui met en perspective deux vies différentes.
Oui, parce que en fait, le personnage principal, c'est une jeune femme, une jeune belge d'origine marocaine, qui s'appelle Fatima, mais qui est réellement très belge dans sa tête. Elle a fait d'excellentes études. Mais bon, elle est née à Molenbeek. Donc là, il y a ce pont là-bas qui s'appelle le pont de Flandre.
Oui,
qui
qu'on voit là.
Oui, qu'on voit d'ici. C'est assez emblématique parce que chaque matin, Fatima se lève, elle se réveille à Molenbeek, elle enfile une tenue, allez disons, islamique, je ne sais pas très bien comment on peut dire ça, c'est une espèce de burqa.
Le hijab, c'est ça que vous dites dans le livre, tout de noir vêtu.
Tout de noir vêtu, ben, elle sort de Molenbeek qui est là, et puis lorsqu'elle passe ce fameux pont, elle entre dans un autre univers qui est ce qu'on appelle ici à Bruxelles, Bruxelles 1000, c'est le code postal en fait, et Bruxelles 1000, c'est le Bruxelles branché, blanc, historique, qui est quasiment un autre monde.
Là, vous entendez des petites éoliennes, en fait, qui longent le canal aussi, de toutes les couleurs, vert, rouge, jaune, bleu. C'est très étrange et c'est très moderne, c'est très bobo, comme on dit maintenant, avec ces immeubles récents. C'est pas du tout l'image de Molenbeek qu'on se fait à travers le monde, avec un quartier complètement dépravé, violent.
Oui.
C'est pas ça, en fait.
Non, je me suis fait gentiment engueuler, si je puis dire, par des lecteurs belges qui habitent à Molenbeek. Les Belges blancs qui habitent à Molenbeek sont en général très contents d'habiter à Molenbeek. Vous entendez les
qu'est-ce que c'est ça,
les éoliennes.
C'est les éoliennes, il y en a qui grincent beaucoup.
Des éoliennes de toutes les couleurs, il n'y a qu'à Bruxelles ou en Belgique qu'on peut trouver ça. Et vous avez ça?
Et ça grince. Ah oui, là, il va falloir entretenir les éoliennes.
Il faudrait mettre de l'huile dans les éoliennes.
Alors là, voilà, on arrive sur le pont de Flandre. Alors, justement, votre personnage est une étudiante brillante. Elle se sent surveillée, elle se sent sous contrôle. Et donc, tous les matins, elle part de chez elle, dans une rue qui est derrière, exactement où nous sommes là, ici à Molenbeek. Elle va traverser ce pont et elle va aller de l'autre côté de la ville, vers la place de la Bourse.
Oui.
et elle va fréquenter un lieu infréquentable. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle est vêtue de noir par vengeance.
Elle a l'impression d'être cernée, c'est le regard. Le regard des autres, le regard des hommes. Dans certaines rues, par exemple, là où nous marchons, par exemple, les deux dames qui viennent à notre rencontre sont effectivement voilées, vous voyez bien. Dans cette rue, tous les magasins, tous les cafés, c'est pas d'ailleurs, c'est plutôt agréable à l'œil, c'est pas désagréable, mais vous voyez que tout est plutôt marocain, nord-africain, maghrébin. Alors elle se sent cernée par le regard des autres. Elle peut pas ici se promener, je dirais en jupe, elle peut pas se promener. Voilà.
Donc elle passe devant ses devantures. Elle va s'arrêter comme ça, elle va constater finalement cette villa. Et puis de l'autre côté donc du pont, qui est derrière nous maintenant, elle va arriver dans un sex shop, car elle est la vedette de ce sex shop, puisqu'elle se déshabille tous les jours. Et c'est ça sa vengeance. Elle dit « je me venge de ceux qui rêvent de m'emmurer ».
En fait, sa vengeance est double. Elle se venge doublement. Elle est entièrement vêtue. Pour ceux qui veulent l'avoir vêtue, elle va se dévêtir pour ceux qui veulent l'avoir nue, parce que finalement il y a cette double injonction. Elle est très intelligente, Fatima. Elle a compris qu'il y a toujours une double injonction de la part des hommes. Soit tu te vêtiras entièrement, soit tu te dévêtiras. Mais, et c'est ça l'autre aspect de sa vengeance, ceux qui la voient nue, qui doivent payer pour la voir nue, ne peuvent pas la toucher. Et c'est ça, elle manipule les uns et les autres.
Pendant que l'on circule dans Molenbeek, ici à Bruxelles, avec Fouad Laroui, qui est l'invité de la librairie francophone aujourd'hui, pour cette déambulation dans Bruxelles, on va écouter nos libraires, Fouad, qui ont lu votre livre et qui vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. On retrouve Claire Renaud. Qu'avez-vous pensé de ce livre, Claire ?
Oui, alors c'est un livre qui se lit d'une traite. On apprécie le style mordant et ironique de l'auteur et puis son écriture est très visuelle, donc on y est. C'est un très beau cri de liberté à travers le portrait de Fatima qui est belle, rebelle, érudite et qui n'entre dans aucun stigmate. Cependant, j'aurais voulu que Fouad Laroui aille un peu plus loin dans ce portrait de femme.
De Molenbeek, on part au Québec. Marie-Noëlle Blé, quel est votre avis, vous ?
Oui, ben je rejoins un peu le commentaire de Claire. Les premières pages laissent bel et bien entrevoir le récit d'une jeune femme insoumise et brillante hein, qui prend des risques pour être elle-même. On pense vraiment lire l'histoire de son émancipation, de son parcours, et en fait, c'est pas tout à fait ça, ou en fait, c'est pas assez ça. Par contre, la dualité du personnage féminin est très intéressante, mais à mon sens, tout le reste manque un peu de nuance. Ce que j'ai bien aimé toutefois, ce sont les réflexions très pertinentes sur les contradictions des pratiques religieuses, et ce, quelles qu'elles soient.
Alors votre personnage dira aussi « je venge mes sœurs afghanes, iraniennes, marocaines, je me venge de Fawzi ». Fawzi qui lui va la suivre, qui va faire le parcours que nous sommes en train de faire en ce moment même, et il va basculer. Parce que il constate donc évidemment que son amoureuse, hein, sa future femme, selon lui, se déshabille comme ça, et toute la ville, tout Bruxelles, lui paraît impudique.
Oui, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'il y a 200, je les ai comptés parce que j'ai habité à Bruxelles, il y a 220 statues à Bruxelles de femmes nues. Partout, un peu partout.
220 statues de femmes.
Je les ai comptées.
Il y a un petit garçon nu aussi. Hein.
il y a le mannequin piste. D'ailleurs, il y a une petite fille pas loin aussi qui fait la même chose. Mais si vous voulez, tout à coup, il va s'apercevoir qu'il y a partout, qu'il y a vraiment partout des statues de femmes nues. Et là, il va se dire, mais c'est ça en fait. C'est elles, ce sont ces statues dévêtues, c'est elles qui poussent nos femmes à se dévêtir. On comprend qu'il est dans un délire absolu.
Donc il bascule et il tombe dans l'acte terroriste. Et là, Fouad Laroui, on peut se poser pas mal de questions, parce que on peut se dire aussi que vous lui trouvez des circonstances atténuantes. Se dire que vous lui trouvez des excuses.
En fait, si vous voulez, ce n'est pas un acte terroriste. C'est ça le fond.
Bah quand même.
Non, c'est le... Vraiment...
On ne va pas tout raconter, mais il y a assassinat quand même.
Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Il y a un label... qu'on plaque surtout. Tout est devenu terroriste. Mais dans l'idée, si on s'en tient à une définition exacte, terroriste consiste à vouloir terroriser. C'est-à-dire, on fait exploser une bombe un peu partout pour terroriser tout un peuple, toute une ville, etc. C'est pas du tout le cas de Fawzi. Et c'est là, ça c'est aussi une thèse qui me tient à cœur, c'est que la plupart de ce qu'on appelle maintenant des actes terroristes, ce ne sont pas des actes terroristes, ce sont des actes absolument horribles, etc. Non. Lui, si vous voulez, il va finir par assassiner quelqu'un. C'est un assassinat, c'est horrible. Mais il n'a pas l'intention de terroriser qui que ce soit.
Donc vous montrez que le danger est partout, alors comme ça, avec ce livre, avec ces loups solitaires, déséquilibrés, qui peuvent passer à l'acte parce qu'ils se sentent... Ils sentent qu'on a bafoué leur identité, leur religion, peu importe, et à un moment, boum.
Oui, mais justement, ces gens-là, c'est leur faire trop d'honneur, d'une certaine façon.
Ouais, ouais.
Les appeler terroristes, de croire qu'ils ont une analyse du monde, c'est faire trop d'honneur à ces gens-là que de les appeler terroristes, comme s'ils avaient une conception universelle d'une espèce de guerre, des civilisations, etc. La plupart, c'est des paumés. D'ailleurs, ceux qui venaient de Molenbeek étaient des petits criminels.
Voilà, on va rejoindre le pont. Merci beaucoup, Fouad Laroui. Merci pour cette balade dans Molenbeek avec cet autre regard sur la ville de Bruxelles, sur cette partie de la ville de Bruxelles. C'est important aussi de rétablir la vérité.
Oui, merci à vous. Merci.
Merci, Fouad. L'insoumise de la Porte de Flandre est parue aux éditions Julliard. On poursuit notre voyage francophone dans cette émission spéciale reportage avec une escale à Essaouira, au cœur de la Médina, sur le toit d'un riad. Ce sera avec Fatoumata Diawara et le Mahalem Hassan Boussou. Je vous annoncerai aussi une réjouissante nouvelle concernant la librairie francophone. On commence cette séquence avec l'un des tubes de Fatoumata Diawara. Bonne journée ou bonne soirée à travers le monde. C'était Fatoumata Diawara avec Bonia. L'été dernier, nous étions à Essaouira pour une édition spéciale de la version estivale de la librairie francophone. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura une troisième saison de la librairie francophone estivale. Tout l'été, vous pourrez donc entendre de nouveaux reportages et des rencontres dans notre club francophone sur votre radio habituelle en Suisse, en Belgique, au Canada, en France et partout dans le monde. Voici en guise d'avant-goût un extrait remonté, remixé de la librairie estivale 2018 avec Fatoumata Diawara et Hassan Boussou.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Nous sommes sur la terrasse d'un riad ici à Essaouira, au cœur de la Médina, pour une rencontre exceptionnelle entre la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et le maalem Hassan Boussou, originaire de Casablanca. Bonjour Fatoumata Diawara.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Super bien.
Ça a l'air. Je suis ravi de vous retrouver ici. Bonjour à Hassan Boussou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des pionniers de l'exportation de la musique gnawa. Mais cette musique gnawa, elle continue à vivre, vous dites, grâce au métissage, avec des artistes comme Fatoumata Diawara, par exemple, on va en parler, mais aussi avec des sonorités occidentales.
Oui, ben c'est grâce à ces festivals comme le festival de Gnawa et Musique du Monde, c'est grâce à d'autres événements qui se passent heureusement maintenant de plus en plus au Maroc, dans tout le Maroc. C'est grâce à ça que cette culture et cette tradition revit et s'est ouverte sur le monde entier. Maintenant, le Gnawa, on l'entend partout, et c'est accès à tout le monde parce que c'est une musique apprenante, quoi.
Tous les deux, vous enrichissez votre musique grâce au voyage, grâce à la fusion des genres. Vous, Fatoumata, avec Mathieu Chédid, ce sont les rencontres qui favorisent vos créations. Ça a toujours été ça pour vous?
Oui, j'avoue que je suis l'une des chanteuses maliennes qui en a fait une spécialité, on va dire, parce que j'ai presque une dizaine d'albums sur le marché. J'aime bien la collaboration, j'aime le partage, j'aime la générosité. Parce que je sens aussi qu'il y a une place à occuper, une place féminine à occuper dans le marché de l'industrie de la musique. Et ce qui fait que j'essaie d'occuper cette place-là, parce qu'on est complémentaires. Hein.
Il faut enrichir le son. Alors là, ici à Essaouira, sur cette terrasse, ce sont les goélands qui enrichissent notre son en ce moment même. Mais vous, Hassan Boussou, vous avez collaboré avec Didier Lockwood, par exemple, avec Tony Allen, avec Wendy Weston, grande figure du jazz. A priori, ce sont des univers opposés, sauf que même s'ils sont différents, quand on les croise, il se passe quelque chose.
Bah justement, le secret, c'est dans la musique gnawa. La musique du gnawa, c'est des origines africaines, c'est l'origine de tout et de tout le monde, en fait. Et voilà, c'est une musique, comme disait mon père et les ancêtres, c'est une musique mère, comme on dit, comme le jazz, le blues, c'est quelque chose qui vient de l'homme, de lui-même, de nous-mêmes. Donc, c'est une musique qui tape dans le cœur et qui touche les âmes, et c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de cadenas, comme on dit.
Il n'y a pas de cadenas. Elle vous touche, cette musique, Fatoumata Diawara?
Moi, beaucoup.
Par ses origines?
Oui, par ses origine, et puis nous avons encore cette musique au Mali. La musique gnawa, elle est l'équivalent de la musique qu'on entend chez les Donso. Et c'est les chasseurs en Bambara, voilà. Et c'est une musique qui est restée très mystique hein, chez nous. Hein. C'est pas, une femme ne devient pas Donso, par exemple. Voilà, un chanteur Donso, quand il commence, il te dit une femme ne peut pas être Donso. Donc pour te dire que c'est la musique des guerriers. Qui dit guerrier, dit guérisseur. En même temps. Donc c'est la musique qui guérit et qui est aussi faite pour les hommes forts, pour pouvoir guérir voilà, les âmes.
Et vous dites, Fatoumata, que la force et la sensibilité sont la même énergie. Vous dites on ne peut pas devenir fort sans être sensible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous?
Ben, cela, moi, c'est mon cas, hein, parce que je ris de tout et je pleure de tout. Ouais. Je peux descendre, là, sortir dehors et voir quelqu'un dans la rue. Et m'effondre, c'est que tout peut se renverser très rapidement avec moi. C'est que tout est à fleur de peau, mais à la fois, les hommes avec qui je travaille me disent que je suis pas une femme. Donc tout, c'est paradoxal. Par rapport à ma réaction, ma façon d'agir et de décider les choses, je sais ce que je veux, quoi. Et parfois, en fait, tout est lié. Donc c'est ma sensibilité qui me pousse à réagir, à agir instinctivement. Et parfois, voilà, j'arrive à au moins m'occuper de ma propre histoire, qui est l'histoire de la musique, et pouvoir faire avancer les choses. Mais j'ai retrouvé la même chose chez Mathieu. Il vit avec l'instinct.
Avec M, ouais.
Oui, M, ouais.
Ouais, il est comme ça, oui, c'est vrai.
Fait tout. Ouais. Sur scène, il peut changer tout. Ouais. Et c'est naturel chez lui, et c'est très important.
musique gnawa, c'est aussi ça, Hassan Boussou, parce que c'est la force et la sensibilité mélangées. Il y a une sorte de transe et c'est cette philosophie-là.
Cette philosophie, c'est la musique gnawa, c'est pareil comme disait Fatoumata. On ne peut pas être fort si on n'est pas sensible. C'est la sensibilité, c'est la fragilité aussi qui amène à devenir quelqu'un de personnalité, de quelqu'un de fort, quelqu'un qui prend des décisions dans la vie. C'est pas facile de prendre des décisions tout le temps. Hein. C'est pas évident, hein, parce que des fois, c'est la chance aussi qui danse. Quoi. Mais voilà, mais la musique gnawa, et pour moi aussi, la musique gnawa, c'est cette philosophie-là, c'est cette vision de la vie, c'est cette. Voilà, c'est cet univers, quoi.
Fatoumata Diawara, cette force, on la retrouve évidemment dans tout votre parcours, hein, en fait, avec vos collaborations, et puis surtout Oumou Sangaré, qui a beaucoup compté pour vous, Cheikh Tidiane Seck aussi, parce que ce sont eux qui vous ont mis sur le devant de la scène à un moment. Être ici à Essaouira, Fatoumata, croiser comme ça votre musique avec celle des artistes gnawa, c'est dans la logique des choses, tout
moi,
est logique.
Ouais, pour moi, c'est totalement logique et c'est totalement normal.
Alors, dans la librairie francophone, vous le savez, on est très attaché au texte. Vous incitez aussi les jeunes à s'unir. Vous souhaitez que les enfants se donnent la main dans Négué Négué. Vous parlez du respect dans Bonia et vos textes, je me suis aperçu en fait qu'ils sont très humanistes, très portés vers un idéal.
Oui, ça, je pense que ça c'est dû peut-être à ma féminité parce que je sens l'obligation d'être la voix des sans-voix, de pouvoir améliorer les choses pour les jeunes africains et de voir comment est-ce qu'on peut avoir des débats, des conversations à travers la musique pour pouvoir nous améliorer, être fiers de nous, de nous accepter et d'aimer ce continent qui nous aime tant que ça et qu'il est temps qu'on soit fiers de ce continent, qu'on profite de notre diversité et qu'on en fasse une force et non une défaite. Et pour cela, ben, du coup, dans mon texte, on va parler de respect parce que quand tu respectes quelqu'un qui est différent de toi, c'est de te respecter toi-même et qu'on se batte pour l'écologie. Parce que la planète est en danger. Arrêtons de jeter des plastiques dans les fleuves ou dans la mer. La nature a besoin. N'arrête pas de nous faire signe là. Elle a besoin de nous, que ses enfants se retournent vers cette nature qui est nous d'ailleurs. Ça nous représente, hein, c'est notre miroir. Ça reflète notre âme, hein, la nature. Mais il faut qu'on la soigne, cette nature-là. C'est une bonne guerre pour moi. Si on fait une guerre mondiale pour le pays le meilleur, le mieux soigné au niveau écologique, ouais. Moi je dirais là, on est dans la bonne direction.
Merci beaucoup Hassan Boussou, merci Fatoumata Diawara pour cette rencontre inédite ici à Essaouira, sur l'une des terrasses de la Médina, au sommet d'un riad. On entend la ville d'ailleurs s'animer derrière nous. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Merci, merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Et voici la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur comme chaque semaine. Et on commence avec un coup de cœur, Thomas Auxerre de la librairie L'Amandier à Puteaux en France, avec un coup de cœur dans le rayon des romans.
Exactement Emmanuel, c'est pour un livre dont le titre est Écume. C'est écrit par Patrick K. Dieudonné et c'est aux éditions de la Manufacture.
Et c'est francophone ça.
Eh ben oui, il est né en Angleterre mais il écrit en français.
D'accord.
C'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Alors vous suivez deux personnages Emmanuel, ils sont marins depuis toujours, c'est le père et le fils. Alors le fils, c'est celui qui raconte les silences du père, c'est celui aussi qui raconte la folie grandissante et l'ambiance délétère sur le bateau de pêche. C'est aussi le fils qui nous parle de l'autre commerce auquel le papa a décidé de se livrer. Il vend des traversées aux passeurs qui conduisent des migrants des côtes françaises à l'Angleterre. C'est superbement écrit, alors vraiment, c'est très très fort. Et puis c'est pas un livre qui va vous épargner hein, parce que ça commence mal, ça finit peut-être pire, ça je vous dis
d'accord,
pas.
D'accord, bah stop.
On affronte le gros temps. Oui. Enfin voilà, c'est vraiment super et vous allez vous en souvenir très longtemps.
Vous l'avez bien vendu, Écume. C'est aux éditions La Manufacture des Livres.
Exactement.
Merci Thomas. Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles, un coup de gueule je crois.
Mais oui, parce que vous savez qu'il y a des gens, eh bien au moment de payer, ils essayent de marchander, ouais. bah, oui, ils nous demandent si on ne peut pas leur faire une petite remise supplémentaire. Mmh. Alors c'est encore plus fort quand on est sur les salons, comme si c'était une foire au boudin et qu'on était là pour brader les prix. Enfin, j'ai rien contre le boudin, enfin si, j'ai pas, mais c'est une autre histoire. Bon, alors...
Rien à voir avec le boudin. Oui.
Voilà, donc pour rappel, les livres, c'est pas comme le boudin, ils ont un prix fixe, un juste prix qui a été réfléchi et qui permet à tous les maillons de la chaîne de l'édition d'essayer de vivre. Et d'ailleurs, le prix, il est imprimé sur les couvertures. Alors que ce soit bien clair une fois pour toutes, les remises, à part celle de la carte
pas.
De fidélité, c'est non.
Ah oui, il y a la
Désolé.
Carte de fidélité quand même.
Ah bah oui.
Bon. Merci Déborah. Laura Sanchez en Suisse, vous avez un coup de cœur depuis le rayon jeunesse de la librairie du Boulevard à Genève.
Oui, pour le premier opus d'une nouvelle collection à la joie de lire, autour des écrits pour enfants de Corinne Abbey, fameuse auteure valaisanne. C'est très élégant petit livre présente quelques histoires aux thématiques très originales, des histoires de maisons, de villes et de chemins. Ce sont 9 petits textes qui sont très joliment illustrés par une jeune illustratrice à suivre absolument, elle s'appelle Vamille.
Bien, et vous avez tout dit. Merci beaucoup Laura. On termine avec Jérémy Laniel de la librairie Carcajou à Rosemère au Canada, avec un coup de gueule bien sûr, Jérémy.
Oui, vous savez, tout au long de l'année, on sait très bien là, qu'arrive le temps des fêtes, il y aura les livres de cuisine, arrive janvier-février, les livres de remise en forme et de diète. Mais tout au long de l'année, à chaque semaine presque, il y a des livres sur comment faire de l'argent avec de l'argent, Emmanuel.
Ah bon?
On en a plein des tablettes de ces livres de finances, de gestion de patrimoine, comment faire fructifier ses avoirs, comme si c'était simplement notre faute, hein, si on n'était pas capable de clore nos fins de mois. Ça vend du rêve. Je trouve ça d'un ridicule et les tablettes sont pleines. Donc, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bonnes fictions à lire. Cessez d'imprimer ce genre de sottises.
Merci, Jérémy. Voilà, c'est bien dit.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le chanteur canadien Florent Volant, ancien membre du groupe Cachetine, qui chante en langue inoue. C'était Florent Volant avec Cham Chiwe, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Je vous rappelle aussi la version télé de la librairie francophone chaque mois sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3, ICI RTV et en ligne sur Dailymotion ou encore à la demande sur les plateformes télé et radio de votre chaîne. À la réalisation, Étienne Bertin avec Mathias Saléon à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. À la semaine prochaine sur votre radio francophone pour la suite de notre grand voyage culturel. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end de Pâques. À bientôt, salut.